Et donc nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16 et nous allons lire les versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 16, les versets 1 à 7. Voici ce que écrit l'apôtre Jean, verset 1. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez !» et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc ce matin, nous abordons les premières coupes de la colère de Dieu. Nous abordons cette question de la colère de Dieu, premier mot sur la feuille. Une réalité qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les libéraux, par exemple, essaye de définir Dieu sans faire référence à la révélation que Dieu fait de lui-même dans la parole et sans faire référence surtout à sa colère, à sa sainteté. Et quelqu'un a résumé l'enseignement des libéraux de cette manière. Il a dit, voilà, il s'agit d'un Dieu sans colère qui a amené des hommes sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. Mais le message des libéraux est attrayant pour ce monde, mais c'est un message qui est très loin de ce que nous dit la parole de Dieu. Et parmi tous ceux qui n'aiment pas la description de Dieu que nous donne la Bible, la révélation que Dieu lui-même, que Dieu se fait de lui-même, de sa personne, il y a essentiellement deux approches qui abordent la question de la colère de Dieu. Il y a la première qui est adoptée par les athées, et eux vont souligner, ou je dirais même surligner, l'enseignement de la Bible au sujet de la colère de Dieu, et ils vont ensuite dire que voilà, cet enseignement est primitif. Cet enseignement est même répugnant au niveau moral. L'un d'entre eux, Richard Dawkins, l'athée connu, a dit ceci dans un reportage. Alors, je ne sais pas, il est passé en Angleterre, je ne sais pas si ça a été traduit, mais il dit « Enseigner aux enfants à croire en quelque chose comme le jugement des péchés dans un enfer éternel est une forme de viol. » Et j'ai un peu adouci son langage parce qu'il est assez cru. Mais voilà, ça c'est la première approche. Ils vont surligner le langage de la Bible et ensuite dire que voilà, ça c'est un primitif et ils vont rejeter l'enseignement de la parole de Dieu. L'autre approche est utilisé par des personnes qui professent la foi chrétienne et on les trouve même dans le monde évangélique. Et ils essayent en fait de nier ce que la Bible dit au sujet de la colère terrible de Dieu. Ils vont essayer de réinterpréter des passages, minimiser ces passages pour ne pas présenter un Dieu qui est en colère contre le péché, contre les pécheurs. Par exemple, On lit ceci, les Écritures dans leur ensemble ne fournissent aucun fondement pour le portrait d'un Dieu en colère qui doit être apaisé par un sacrifice de propitiation. Ou un autre dit, l'idée de la colère de Dieu se moque de l'enseignement de Jésus sur l'amour de ses ennemis et le refus de rendre le mal pour le mal. Et on trouve ça même chez certains éditeurs évangéliques. Mais quand on vient à l'Apocalypse, quand on vient à des passages comme celui que nous voulons considérer ce matin, il y a presque aucune raison d'argumenter que ces personnes-là, elles ont tort et que la Bible enseigne clairement la réalité de la colère de Dieu. La seule chose qu'on a à faire, c'est de lire le texte. Et de lire ce que la Bible dit. Et c'est vrai pour l'Apocalypse, mais c'est vrai dans toute la parole de Dieu. On trouve des expressions qui parlent de la colère de Dieu, de ses jugements, deuxième mot sur la feuille, de ses jugements sur le péché. Nous avons lu au verset 1 de ce chapitre 16, montre très clairement ce que la Bible dit. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Et cet ordre, ce commandement vient du sanctuaire, vient du lieu très saint, du temple céleste, du temple où Dieu habite. Les anges sont ses serviteurs, les coupes contiennent sa colère et qui est déversée en tant que son jugement sur le monde. Donc la Bible est très claire à ce sujet. Il y a la réalité terrible de la colère de Dieu. Mais en ayant dit cela, la question se tourne ensuite sur l'aspect moral de cette doctrine. Comme j'ai dit, les athées vont dire que cela, pour eux, est moralement répugnant. Nous, qu'est-ce que nous disons ? La réponse est donnée dans cette section d'Apocalypse 16. Non seulement nous voyons l'ange qui parle, nous allons le voir tout à l'heure, dans les versets 5 et 6, et il défend Dieu au sujet de sa colère, mais il va louer Dieu pour sa colère. « Tu es juste, toi qui es, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Et l'ange va continuer à donner les raisons pour lesquelles la colère de Dieu doit être louée, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et si on veut suivre donc le livre de l'Apocalypse, alors la doctrine de la colère de Dieu et du jugement de Dieu sur le péché doit être enseignée. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très populaire, et beaucoup, même dans le monde évangélique, ne sont même pas prêts à simplement déclarer que Dieu est en colère contre le péché et contre le pécheur, qu'il va juger avec certitude le péché et les pécheurs qui ne sont pas lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais on doit l'enseigner, on doit enseigner cette vérité. On doit l'enseigner non seulement parce que c'est dans la Bible, mais parce que c'est vrai. Et nous savons que dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Et Dieu ne veut pas laisser de doute à ce sujet. Sa colère n'a pas disparu parce qu'elle n'est pas populaire. Sa colère est vraie et sa colère est réelle. Nous devons annoncer cette colère de Dieu et dire avec Jonathan Edwards, que l'homme pécheur est entre les mains d'un Dieu en colère. Mais nous devons aussi être capables de défendre la colère de Dieu contre les athées qui le méprisent, contre les religieux qui sont dans la confusion. Et le meilleur texte pour cela est celui que nous avons devant nos yeux ce matin. Nous allons souligner quatre points de la colère de Dieu. Et nous allons voir en fait que ces points sont dignes de louange, ou nous amènent à louer Dieu pour sa colère. Et nous allons terminer par un problème. Donc le premier point, le premier aspect de la colère de Dieu, c'est la sainteté, troisième mot sur la feuille, la sainteté de la colère de Dieu. Les premiers versets de ce chapitre 16 donc décrivent le versement des coupes de la colère de Dieu sur terre. Et ce versement se fait à la suite d'un ordre qui a été donné, qui vient du temple. La dernière fois, nous avons vu au chapitre 15, et le chapitre 15 termine au verset 8 avec cette déclaration. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Ce qui nous amène à dire donc au premier verset, si la voix sort du temple, celui qui parle n'est autre que Dieu lui-même. Il est le seul qui est au temple. Personne ne pouvait entrer. Personne ne peut entrer dans le temple. Il est le seul dans le temple. Et nous avons dit que ce terme de temple, dans l'Apocalypse, décrit souvent le lieu très saint, le lieu où habite Dieu lui-même. Un lieu parfait, un lieu pur, un lieu où l'on peut voir la magnificence de l'Éternel, selon les mots du psalmiste, psaume 27. Et c'est de là que viennent les coupes de la colère de Dieu pour être versées sur la terre. Et donc cela nous décrit cette première chose, ce premier aspect, la première chose importante que nous devons voir au sujet de la colère de Dieu, que c'est une colère sainte. C'est une colère qui se manifeste dans une violence terrible, précisément à cause de la perfection morale de Dieu et à cause de la nature immorale du péché. C'est parce que Dieu est saint que cette colère est terrible. Alors quand des critiques nous posent la question, mais comment est-ce que vous pouvez croire en un Dieu qui agit avec une telle violence contre ses créatures? La réponse la plus importante est que le Dieu de la Bible, celui qui se révèle dans sa parole, celui en qui nous croyons, est un Dieu qui est parfaitement saint. Et que ce sont donc les péchés de l'homme, quatrième mot sur la feuille, les péchés de l'homme qui ont suscité la colère de Dieu. Dieu n'est pas en colère contre l'homme en tant que tel, ou parce qu'il est homme. Non, il est en colère contre l'homme en tant que pécheur. Le récit de Genèse 3 nous raconte comment le péché est entré dans le monde, comment le péché a changé de façon radicale la relation entre Dieu et sa créature. Dieu est saint, Dieu a horreur du péché. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et ce n'est que le mal du péché qui explique la colère de Dieu, qui a suscité la colère de Dieu, parce que Dieu et saint. Psaume 5, verset 5 à 7. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre, il déteste les hommes de sang et de fraude. Il a en horreur le péché. Un écrivain, un homme du nom de Stephen Charnock, au XIXe siècle, a écrit peut-être le meilleur livre sur les attributs de Dieu. Et il dit ceci: « Un amour pour la sainteté ne peut pas exister sans une haine pour tout ce qui est contre cette sainteté. Comme Dieu s'aime lui-même, il aime sa perfection, il aime sa sainteté. Il doit donc nécessairement détester tout ce qui est répugnant pour cette sainteté, à cause du mal qu'il contient. » Souligner la sainteté de Dieu nous rappelle que nous ne devons pas comparer la colère de Dieu avec la colère de l'homme. Colère de l'homme qui est souvent rempli de péché, souvent le fruit de son irritabilité. Quand on parle de colère, trop souvent, on voit cela comme quelque chose de négatif. Et c'est parce que on prend comme référence la colère humaine, cette rage égoïste, incontrôlée. Mais ce n'est pas le cas de la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle est pure. Elle n'est pas contaminée par ces éléments qui font que la colère de l'homme est pécheresse. Non, la colère de Dieu, elle est pure, elle est parfaite. Cinquième mot sur la feuille. Elle est parfaite parce qu'elle est dirigée contre l'incrédulité, contre l'injustice de l'homme. Benjamin Warfield a écrit ceci: « Sans la colère contre le péché, Dieu ne serait pas un être moral. Tout être moral doit être rempli d'indignation contre toute forme de mal. Si nous ne réagissons pas contre le mal quand nous le voyons, si nous ne sommes pas indignés, nous sommes soit amoral ou immoral. » L'absence de la colère de Dieu contre le péché remettrait en question la sainteté de Dieu. Dieu est en colère parce qu'il est saint. Et nous voyons la colère de Dieu versée sur la terre, sur la mer, les fleuves, les sources d'eau, et cela souligne ses obligations en tant que créateur. La sainteté, nous dit un auteur, la sainteté de Dieu et la colère de Dieu et la santé de la création sont unies de façon inséparable. La colère de Dieu et son intolérance à tout ce qui dégrade et détruit. Il hait l'iniquité comme une mère hait la maladie qui prend la vie de son enfant. Heureusement pour nous que Dieu n'a pas abandonné sa création. Cette création lui appartient. Elle a été créée pour lui, pour sa gloire et dans son amour pour ce monde qu'il a créé. Il est déterminé à chasser le mal, à le juger et à le punir. Au verset 5, nous voyons qu'il est question de l'ange des eaux qui défend la colère de Dieu. On ne va pas entrer en détail, il y a une discussion sur la description de cet ange qui n'est pas très très claire, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce qui est important ici, c'est ce qu'il dit au sujet de Dieu. Tu es juste, toi qui es, toi qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. L'éternité de Dieu et la sainteté de Dieu sont réunies ensemble pour assurer que Dieu va toujours être rempli de colère contre le péché. Il sera toujours en colère contre le péché. L'auteur que j'ai cité tout à l'heure, Charnock, écrit ceci: « Dieu ne peut pas cesser de haïr l'impureté, pas plus qu'il ne peut cesser d'aimer la sainteté. Dieu devrait renoncer à lui-même, renier son essence même et sa divinité, si son aversion du mal pouvait un jour changer. Dieu est en colère et il sera toujours en colère contre le péché parce qu'il est saint. » Il a une haine totale contre le péché. Nous, les êtres humains, nous faisons des compromis avec le péché. Nous nous sentons souvent très bien avec le péché. C'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. C'est pour ça que l'homme va jusqu'à accuser Dieu d'être moralement répugnant. Mais la réalité, en fait, c'est que c'est l'homme qui est moralement défectueux et Dieu qui est parfaitement saint. Sa colère est sainte. Le deuxième aspect de cette colère, nous voyons ici, c'est la vengeance de la colère de Dieu. Verset 2. Qui sont ceux sur qui cette colère est versée? Nous lisons les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La colère de Dieu est versée sur le monde incrédule, ce monde qui est au service et qui adore l'ennemi de Dieu, Satan, représenté par le dragon, représenté par les bêtes. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, a dit à plusieurs reprises que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Et certains vont se demander, mais est-ce que c'est aussi simple que cela? Soit on est pour lui, soit on est contre lui, et l'Apocalypse dit oui. C'est aussi simple que cela. On l'a déjà vu. On l'a vu dans les chapitres 13 et 14, par exemple, qu'il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui portent la marque de la bête et qui suivent ce monde, l'idolâtrie de ce monde, et ceux qui portent la marque du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que deux catégories de personnes. Le monde sur qui donc est versé les coupes de la colère de Dieu, et ce monde qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ dans une incrédulité rebelle, qui a choisi d'adorer les puissances de l'adversaire, de suivre Satan. Et le verset 6 continue. Ses ennemis ont versé le sang des saints et des prophètes. Et la colère de Dieu est aussi un paiement en retour pour la violence qui a été commise contre son peuple. Alors bien sûr, certains vont mettre en rapport, en contraste ce que Paul dit en Romains chapitre 12. En Romains 12, Paul rappelle aux croyants qu'ils ne doivent pas se venger eux-mêmes. Mais verset 19, Romains 12, 19, « De laisser agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et on voit cette vengeance ici dans les coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 6, par exemple, verset 10, nous a montré les âmes des martyrs qui étaient sous l'autel et qui criaient à Dieu « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» À l'arrière-plan de cette colère de Dieu, il y a les prières de son peuple qui souffre. Le verset 7 de notre passage, il y a différentes versions. Nous, dans notre version, nous disons « J'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait » D'autres versions vont dire, ne font aucune référence à l'ange. D'autres versions vont dire « J'entends de l'autel une voix qui disait » En fait, littéralement, il faudrait lire « J'entendis l'autel dire ». Et c'est une façon de dire que ce sont d'une part, les martyrs qui sont sous l'autel, chapitre 6, et ce sont les prières qui sont sur l'autel, chapitre 8, qui disent « Oui, cela est bon, tu as promis de nous venger, et maintenant tu le fais ». C'est la satisfaction de l'Église. Dieu déverse sa colère sur ses ennemis. Quand on parle de la vengeance, de la colère de Dieu, on doit noter la nécessité, septième mot sur la feuille, la nécessité de cette colère dans le salut de son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné dans la prière modèle, a demandé « Délivre-nous du mal ». Il y a un besoin dans lequel, pour lequel le peuple de Dieu doit être délivré du mal. Et nous lisons partout dans la parole de Dieu que le peuple de Dieu souffre dans ce monde à cause des afflictions de ce monde, à cause de ce monde incrédule, de ce monde idolâtre qui persécute le peuple de Dieu. Et Dieu va sauver son peuple en déversant sa colère sur ses ennemis. On a déjà fait référence à cet événement en l'an 701, avant Jésus-Christ, le siège de Jérusalem par le roi Sanchérib. Jérusalem a été sauvée, comment ? Par la destruction de l'armée de Sanchérib. Mais c'est le modèle de délivrance du peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Dieu délivre son peuple en versant sa colère sur ses ennemis. Mais on pourrait, au lieu de parler de vengeance de la colère de Dieu, on pourrait parler de rédemption de la colère de Dieu. On le voit dans ce chapitre, l'arrière-plan, derrière ces coupes de la colère, vient du livre d'Exode. La première coupe, verset 2, apporte un ulcère malin et douloureux sur les hommes incrédules. Où est-ce qu'on a déjà vu ça ? On a vu ça dans les plaies d'Égypte. C'était la sixième dans la Syrie. Ces plaies qui allaient amener la libération du peuple de Dieu, de l'esclavage. La deuxième coupe, verset 3, fait en sorte que la mer devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. La troisième coupe, verset 4, est déversée dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça en Égypte. C'était la première plaie, quand l'eau du Nil était changée en sang, que tous les poissons sont morts, Exode chapitre 7. Et ces jugements, donc, qui nous sont rapportés ici, ont en fait le même caractère que les plaies qui ont amené la délivrance du peuple d'Israël de son esclavage en Égypte. La colère de Dieu sert à racheter, sert à libérer, neuvième mot sur la feuille, à libérer le peuple de Dieu des mains des méchants, afin que le peuple serve le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai tout au long de l'histoire, c'est aussi vrai à la fin de l'histoire. La colère cataclysmique de Dieu qui sera déversée à la fin de l'histoire de ce monde aura aussi le même résultat, de délivrer le peuple de Dieu pour toujours et d'amener ce peuple victorieux dans un repos éternel. Et donc, il est donc nécessaire pour nous de savoir que c'est cela qui se passe et c'est cela qui va se passer dans ce monde. Quand on regarde autour de nous, on voit le mal et on est souvent perplexe. Pourquoi ? Comment est-ce que ces choses-là peuvent arriver ? Comment est-ce que ces personnes peuvent s'en tirer après avoir dit ou commis de telles atrocités ? Où est Dieu dans ces cas-là ? Et nous devons savoir qu'au moment que lui-même a fixé, dans le cours de l'histoire et aussi à la fin de l'histoire, Dieu va juger tout mal. Il va juger. Et on le voit tout au long de l'histoire, on a des méchants qui apparaissent, ils ont un moment de gloire et Dieu les détruit. Et en même temps, Dieu garde son Église. Elle grandit et personne ne pourra la détruire. Et en sachant cela, cela va nous amener à changer notre attitude. Quand on sait que Dieu va exercer sa colère sur les méchants, au moment voulu, au temps que lui-même a fixé, nous n'avons plus aucune raison d'être en colère. Mais nous sommes appelés à manifester la miséricorde et la grâce. Oui, ce monde peut nous affliger, mais nous allons laisser le jugement entre les mains de Dieu. Nous lui laissons la colère. Romains chapitre 12, ce passage que j'ai cité tout à l'heure, Paul rappelle que si notre ennemi a faim, nous devons lui donner à manger. S'il a soif, nous devons lui donner à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Des paroles importantes alors que nous sommes outragés en voyant le mal autour de nous. Oui, nous voulons défendre le bien, nous voulons défendre la vérité, mais nous ne devons pas mépriser ceux qui nous méprisent. Nous devons laisser la colère de Dieu s'occuper des méchants en temps voulu. À moi la vengeance, dit l'Éternel, à moi la rétribution. La vengeance de la colère de Dieu. Un troisième aspect de cette colère, la justice, dixième mot sur la feuille, la justice de la colère de Dieu. Versets 5 et 6, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et puis le verset 7 précise, tes jugements sont véritables et justes. On peut remarquer que les jugements des sept coupes correspondent aux jugements des sept trompettes, en particulier les premières. Il y a un parallélisme qui est très, 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 très proche. La deuxième trompette amène un tiers de la mer à devenir du sang. Un tiers des animaux marins meurt. Maintenant, c'est la totalité de la mer qui devient du sang et la totalité des animaux marins qui meurent. La troisième trompette amène un tiers des fleuves et des sources à être pollués. La troisième coupe amène la totalité des fleuves, la totalité des sources à être polluées. Il y a une correspondance aussi avec les coupes suivantes. Mais la différence principale ici, c'est que les jugements des trompettes étaient des jugements partiels. Un tiers a été détruit. C'était des jugements, comme nous avons vu, d'avertissement. Il y avait toujours une place, un appel à la repentance. Ici, le jugement de la coupe est un jugement qui est total. C'est un jugement qui frappe la totalité de sa cible. C'est un jugement de colère, un jugement de destruction. Et ce qu'il faut saisir, c'est que ces jugements des coupes déversent une rétribution, 11e mot sur la feuille, une rétribution juste pour le péché. La colère de Dieu est juste. Elle déversait sur tous ceux qui violent sa loi. Et le verset 6 rappelle que les méchants ont versé le sang des serviteurs de Dieu et Dieu va leur donner du sang à boire. C'est ce qu'ils méritent. Beaucoup d'experts, même évangéliques, n'acceptent pas cette notion de justice, de rétribution. Un auteur dit ceci, « Le jugement de Dieu ne doit pas être considéré en termes de rétribution. Il ne s'agit pas de punir des personnes à cause de leurs actes. » Pourtant, toute la Bible enseigne cela. Pourtant, toute la Bible ne cesse de montrer cette réalité. Le verset 6 déclare, « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Ils reçoivent exactement ce qu'ils méritent. » Et on a beaucoup d'exemples dans toute la parole de Dieu. On a Achan dans le livre de Josué qui a dérobé l'or, l'argent, les vêtements, ce qui était dévoué par interdit. Et il a été puni pour ce péché. On a Jéroboam, Achab, Jézabel, Nebuchadnezzar, Ananias et Saphira. Ils ont tous connu la justice de rétribution à cause de leur péché. Israël aussi a connu cette justice quand Dieu l'a envoyé en exil. Pourquoi est-ce qu'Israël est allé en exil dans un pays païen? Parce qu'Israël s'était tourné vers les idoles païennes. Et donc Dieu le renvoie vers une nation païenne, en exil. Cette notion de justice, de rétribution, aujourd'hui n'est pas populaire. Et elle soulève différentes objections. Certains vont dire, par exemple, qu'avec cette notion de rétribution, cela revient à dire qu'au fond, les chrétiens doivent en réalité être délivrés, d'être sauvés de Dieu. Et ils disent que cette affirmation est grotesque. Mais quand on y pense, en fait, cette affirmation est vraie. Parce que la menace ultime contre les pécheurs, c'est Dieu lui-même. Nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés de quoi? Avant tout, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Dieu qui est juste, Dieu qui est saint, Dieu qui a horreur du péché. Il exige que le péché soit puni. C'est ce que l'auteur souligne, l'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreux 10, verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Oui, nous devons être sauvés de la colère de Dieu. D'un Dieu qui est juste, d'un Dieu qui est saint. D'autres vont objecter à cette notion de justice, de rétribution de Dieu, en affirmant que cette notion entre en conflit avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne. Mais c'est plutôt un raisonnement étonnant, parce que d'une part, Jean connaissait très bien le Seigneur Jésus-Christ, puis d'autre part, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à Jean dans le livre de l'Apocalypse. C'est le Seigneur qui lui parle. Donc il ne peut pas y avoir d'opposition entre ce que le Seigneur dit ici en Apocalypse et ce qu'il a dit pendant son sermon sur la montagne. Les gens vont dire, mais Jésus n'a-t-il pas enseigné que nous devions tendre l'autre joue, que nous devions aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, afin d'être les enfants de notre Père céleste? Et l'argument de ces personnes est le suivant. Il dit, mais si Dieu nous enseigne à ne pas nous engager dans des représailles, pourquoi est-ce que Dieu lui-même s'engage dans des représailles? Est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu dit, faites ce que je dis et non pas ce que je fais? Et la réponse à cela est oui. Mais parce que Dieu est différent de nous. Dieu est différent de nous. Il est parfaitement capable d'exercer une justice parfaite. Et c'est pour ça que nous devons lui laisser traiter cette question. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Tout à l'heure, nous avons mentionné l'apôtre Paul en Romains 12 qui enseigne que nous ne devons pas chercher la vengeance, mais la laisser à Dieu. L'argument de Paul est ceci. Nous ne devons pas chercher à nous venger parce que précisément Dieu va exercer la vengeance. Et donc nous n'avons pas besoin de chercher à nous venger. Dieu ne veut pas que nous fassions ce qu'il fait précisément parce que lui, il le fait et il le fait parfaitement. Faites ce que je vous dis et non pas ce que je fais. Oui, parce qu'il est Dieu. Et nous ne le sommes pas. En considérant ces trois premières coupes de la colère de Dieu, on peut voir que ce qui se passe donc ici, c'est une récompense, juste au 12e mot sur la feuille. C'est une récompense et une punition du péché. Les adorateurs de la bête avaient sa marque afin de participer dans les plaisirs qu'il leur propose. Mais Dieu les juge en versant sur eux la colère. Ils souffrent et ils vont connaître la mort. Ils ont versé le sang des justes, alors Dieu leur donne du sang à boire. Et nous verrons dans la quatrième coupe que les habitants de la terre ont recherché la paix, le repos, en faisant alliance avec les puissances de l'enfer. Alors Dieu va les brûler avec un feu venant du ciel. Le grand avertissement pour nous et pour notre époque, pour un monde qui n'a pas honte, qui a de moins en moins honte de vivre ouvertement dans le péché, c'est que la patience de Dieu a ses limites et qu'un jour il déversera sa colère sur le péché. Le péché, s'il n'est pas traité à la croix du Seigneur Jésus-Christ, doit être traité par la colère de Dieu. Le quatrième aspect de la colère de Dieu, ce sont les bénéfices de la colère de Dieu. Quatrième mot sur la feuille. Les bénéfices de la colère. Verset 7. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. L'ange et les martyrs se réjouissent à cause de la colère de Dieu. Mais comment la colère de Dieu peut-elle apporter des bénéfices? Parce que la colère de Dieu fait respecter sa loi. Quatorzième mot sur la feuille. Elle fait respecter sa loi. La loi, Dieu a donné sa loi avec pour but le bien-être de toute la création. Dieu a donné sa loi pour la bénédiction de toute la création. Et la colère de Dieu vient enlever, a pour but d'enlever tout mal, d'enlever tout ce qui est mal. C'est une bonne nouvelle de savoir que la colère de Dieu est dirigée contre le péché, contre le mal, et qu'à la fin, le monde sera nettoyé du mal, que la justice de Dieu couvrira le monde comme les eaux couvrent la mer. C'est déjà une délivrance dans le cours de l'histoire, lorsque Dieu juge, lorsque Dieu punit les injustes, mais ce sera une délivrance complète à la fin de l'histoire, quand toute injustice sera enlevée. David, dans le psaume 58, verset 12, anticipe cela. Il dit ceci, « Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » À cause des bénéfices de la colère de Dieu, en jugeant le mal, le peuple ajoutera sa voix à la voix des anges pour adorer et louer Dieu à cause de sa colère. Tu es juste, verset 5, toi qui es, toi qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Et ça nous amène au dernier point, le cinquième. Il y a un problème. La vision de ces coupes de la colère de Dieu soulève un problème. Le problème n'est pas la colère de Dieu. Nous avons vu que c'est une colère qui est sainte parce que Dieu est saint. C'est une colère qui est vengeresse, qui est juste, une colère qui apporte des bénédictions. Le problème, c'est que nous faisons partie de ceux qui ont commis le mal devant Dieu, devant ce Dieu qui juge le mal, ceux qui se vengent contre le péché. Et sa colère est dirigée contre nous, contre les êtres humains dont nous faisons partie. C'est le grand problème. Notre péché mérite, 15e mot sur la feuille, mérite la colère juste et sainte de Dieu. Mais quand nous prenons conscience de cela, nous réalisons alors que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est une merveilleuse bonne nouvelle. Nous avons dit tout à l'heure que nous devons être sauvés de Dieu parce que Dieu est en colère. Mais c'est aussi Dieu seul qui peut nous sauver. Le salut, comme la colère, vient de Dieu. Et c'est le message de toute la Bible. Nous n'ouvrons pas la Bible pour voir notre péché, pour voir la colère de Dieu, et pour ensuite avoir des directives pour faire certaines choses à ce sujet. Qu'est-ce que nous pourrions faire ? Si on prenait rien que cette matinée, tout ce que nous avons dit, même tout ce que nous avons pensé, si nos pensées étaient lues devant tout le monde, nous serions anéantis. Au chapitre 20 de l'Apocalypse, les livres seront ouverts, tout sera connu. Quel anéantissement, quelle destruction cela va être. Et nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est Dieu qui sauve. Oui, Dieu qui est saint, Dieu qui est juste, Dieu qui est parfait dans sa colère, est aussi un Dieu de grâce. L'homme peut être pardonné, il peut être lavé, il peut être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli ? Le prophète Ésaïe a regardé cela et l'a décrit au chapitre 53, les versets 5 et 6. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comment des pécheurs peuvent-ils être réconciliés ? Comment peuvent-ils échapper à la destruction causée par la colère de Dieu ? La réponse est dans la grâce de Dieu. 16e mot sur la feuille. La grâce de Dieu dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne se contente pas de faire une croix sur le péché, parce que sa sainteté ne le permet pas. Mais Paul affirme ceci en Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire. Dans tout ce qui précède ce passage, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Les œuvres ne peuvent pas justifier une personne. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Après ce passage, il n'y a que de bonnes nouvelles. La justification est possible par la foi en Jésus-Christ. La nouveauté de vie est possible. Qu'est-ce qui change cette mauvaise nouvelle en bonne ? Romains chapitre 3, verset 25. Dieu a établi son Fils comme victime propitiatoire. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a subi la colère de Dieu. Cette colère que méritaient les péchés de son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ l'a subi afin que son peuple soit libre, pardonné, qu'il entre dans la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci en Jean 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il ne vient point en jugement. Pourquoi ? Parce que Christ a subi la colère de Dieu. Il a subi ce jugement à notre place, afin que nous vivions à travers lui. Dans un sens, la colère de Dieu est la chose la plus raisonnable dans la parole de Dieu, à cause de sa nature. Mais ce qui dépasse la raison, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu fasse grâce à des pécheurs qui méritent sa colère, cela dépasse la raison. Dieu avait toutes les raisons de simplement détruire sa création rebelle, de détruire ses ennemis. Mais il n'a pas abandonné sa création. Il a établi son Fils, 17e mot sur la feuille. Il a établi son Fils comme victime propitiatoire. La colère de Dieu est sainte, nous l'avons vu. Et ce qui est intéressant, c'est que les pécheurs qui viennent à Christ par la foi sont appelés les saints de Dieu. La colère de Dieu est vengeresse, mais ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ deviennent les enfants de Dieu et ne sont plus ses ennemis. La colère de Dieu est juste, tout péché recevra sa rétribution. Mais ceux qui sont en Christ sont couverts, sont pardonnés par son sang. Paul le dit en Colossiens 2, 14, « Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » La colère de Dieu apporte des bénéfices, elle fait respecter la loi de Dieu, elle enlève le mal. Et ceux qui sont en Christ chanteront un jour avec les anges, « Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et nous verrons au ciel que sa colère était parfaitement raisonnable, mais que sa grâce dépasse la raison. 18e mot sur la feuille. Sa grâce dépasse la raison. Et au ciel, nous ne cesserons de le chanter, de le louer pour cela. Mais que Dieu nous aide à le faire déjà ici-bas, à le louer pour sa colère qui est juste, qui est sainte, qui est raisonnable, mais à le louer encore plus pour sa grâce qui dépasse la raison, cette grâce qu'il nous manifeste dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donc bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin, et qu'il nous aide à la comprendre, pour sa gloire. Amen.